Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 3 août 2021. Il est étonnant de voir comme nous sommes capables de naviguer entre positivisme et négativisme à la vitesse de la lumière. La question n'est pas de savoir si nous serons plus haut dans 12 mois, non. La question est de savoir si nous serons plus haut ou plus bas ce soir, et demain est un autre jour. On a de clairs sentiments que les traders ont commencé le mois en se disant que quoi qu'il arrive, ils finiraient chaque journée 100% cash. La séance d'hier aura été clairement placée sous le signe de l'hésitation et on n'a pas ménagé nos efforts pour expliquer nos décisions parfois douteuses et peu convaincantes. Si vous regardez du côté de ma main gauche, vous trouverez le camp des optimistes. Bon, c'est une figure de style, hein, vu que sous nos contrées, on lit une chronique de haut en bas, vous pouvez aussi dire qu'en haut de la page, vous avez les bullish et en bas de la page, ceux qui sont déjà en position latérale de sécurité. Néanmoins, il me paraissait intelligent, si j'ose dire, de lister les arguments qui ont permis au marché d'entamer la journée dans le vert et de laisser croire au monde merveilleux de l'investissement que le mois d'août commencerait à la manière d'un jeune cabri qui sautillerait dans les champs. Tout d'abord, il y a le plan magique d'infrastructure de Biden. On sait tous qu'il va être approuvé, il est d'ailleurs approuvé en principe, mais ils doivent encore le voter. Le « ils » c'est les sympathiques politiciens américains qui sont en train de préparer leurs vacances du mois d'août et qui sont moyennement pressés d'en finir. Déjà qu'ils n'ont pas eu le temps de signer un nouveau moratoire empêchant les expulsions des locataires qui ne veulent plus payer leur loyer, qui ne peuvent plus payer leur loyer avant de partir en vacances. Il ne faut pas trop les stresser pour un nouveau plan de soutien économique qui va injecter des milliards et des milliards dans les nouveaux projets d'infrastructure, des milliards dont on n'a pas encore trouvé le premier centime, mais c'est pas grave, comme on dit, heureusement il y a la dette, à moins que ce soit Danette, mais j'ai un doute soudainement. Donc le premier point positif, c'était le plan d'infrastructure qui devrait presque être approuvé. La seconde bonne nouvelle, c'est les semi-conducteurs qui cartonnent, qui publient des chiffres canons et qui font des commentaires canons aussi. L'indice SOX termine au plus haut tous les temps et casse sa résistance. Il y a cependant un point négatif, mais je vais le garder pour le paragraphe suivant. Mais retenons déjà que ça termine haut, très haut, et que ON Semiconductor a fait un carton ce trimestre et que le titre prenait plus de 10%. Le troisième point positif, c'était les chiffres du trimestre qui continuaient de faire un strike tout azimut. C'est d'ailleurs surtout en Europe que l'on saluait la chose, aussi parce qu'en Europe, on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les mauvaises nouvelles côté USA. Mais il fallait quand même retenir que près de 90% des sociétés ont fait mieux que les attentes et que le mieux est en général 16% au-dessus des attentes. Alors je ne sais pas si ça change grand-chose à l'interprétation du Schmilblick, surtout que c'est un chiffre fourni par le Crédit Suisse, ce qui met les choses en perspective, mais disons que l'on ne peut décemment pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Pour être parfaitement complet, dans ce chapitre, on notera aussi que Madame Lael Brainard, économiste et membre de la Fed depuis 2014, a annoncé que selon elle, il n'y avait pas d'urgence à réduire les achats obligataires, ce qui sous-entend qu'il y a encore moins urgence à monter les taux. En résumé, c'est toutes ces bonnes nouvelles qui permettaient à l'Europe de finir en hausse et aux USA de commencer la journée en hausse. On notera encore qu'en Europe, Allianz s'est faite décimer après avoir annoncé que leur résultat futur pourrait être impacté par l'enquête qui est ouverte sur leur fonds Structure Alpha Fund. Des fonds qui se sont fait déchirer dans la première phase de la pandémie et qui sont maintenant poursuivis en justice et sous enquête des autorités américaines. Le management d'Allianz ne peut pas dire ni combien ni comment ça va se finir. L'action a perdu plus de 7% hier à Francfort, pesant sur le DAX et sur le moral des investisseurs. Mais je me rends compte que j'ai déjà entamé le chapitre des mauvaises nouvelles et entaché ainsi celui des bonnes nouvelles, un peu à l'image des marchés hier. Si on passe au chapitre des pessimistes et si l'on fait abstraction de l'Europe, c'est le camp des pessimistes donc qui l'a emporté. Quoique Allianz en a pris plein les dents hier quand même, mais ne mélangeons pas l'indice et action, ça serait péché. Pour revenir sur le côté déprimant de la séance d'hier, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vais donc entamer la session parce qu'il y a le plus évident, le Covid. Hier, les intervenants ont pris conscience que tout ce qui nous a fait flipper ces derniers mois durant notre période pandémie semble de retour. Les cas graves en augmentation, les hospitalisations en augmentation, les surcharges hospitalières en augmentation, l'ego d'Emmanuel Macron en augmentation, l'utilisation des masques à tout va redevenue extrêmement populaire, sans compter que même les vaccinés sont contaminés plus ou moins comme le reste et qu'en plus, Pfizer et Moderna ont augmenté les prix des vaccins. Bon, ça, on s'en fout, les vaccins, c'est pas nous qui payent. C'est le gouvernement qui paye avec nos impôts. Ah oui, ok, donc c'est quand même nous qui payons. Et du coup, ça fait bien partie des mauvaises nouvelles Covid India Made in Delta. Une des autres mauvaises nouvelles du jour, c'est l'ISM manufacturier qui était en dessous des attentes. Comprenez que les économistes se sont vautrés dans leurs calculs, un peu comme sur à peu près tout en ce moment d'ailleurs, et qu'en plus d'être en dessous des attentes, l'ISM était en dessous de celui du mois passé, ce qui laisserait supposer que l'économie ne serait plus aussi dynamique qu'elle le fut il y a 30 jours. Cela n'a probablement rien à voir avec le fait que la moitié de la planète est à la plage à se refiler le Covid dans les boîtes de nuit qui acceptent le QR code de ta carte Migros en guise de passe sanitaire, mais disons que cette mauvaise nouvelle d'hier pesait sur le marché, bien qu'elle soit moins grave qu'une autre mauvaise nouvelle, parce que celle-là dans 24 heures, peut-être même moins. On va nous dire que c'est un mal pour un bien, parce que ça limite les risques côté inflation, comme quoi dans tout malheur, il y a quelque chose de bien. Et comme il était écrit que ça allait mal finir hier, on nous a fait un combo de mauvaises nouvelles avec en un l'effondrement des rendements du 10 ans américain qui fait toujours hyper peur mais qu'on ne sait jamais trop comment interpréter et comme toujours quand on ne sait pas, on vend. Actuellement le rendement est à 1,18 mais hier c'était pire et si on fait d'analyse technique là-dessus, ce truc va à 1% purement symboliquement. En deux, il y avait un autre membre de la Fed qui a parlé, un monsieur cette fois, un monsieur qui s'appelle Christophe Waller et qui a dit plus ou moins le contraire de Lyle Brenner. Comme quoi la communication à la Fed n'est pas leur point fort. Waller estime qu'il faut se manier de ralentir les achats obligataires et donc, in extenso, se manier de remonter les taux pour freiner l'inflation qui, je le rappelle, n'est que transitoire. En 3, on ajoutera encore à la liste de ce lundi médiocre les semi-conducteurs. Je l'ai dit, lundi s'est terminé au plus haut de tous les temps, mais durant la séance, il nous a gratifié d'un reversal qui ressemble furieusement à une shooting star, ce qui, malgré son nom poétique, n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais plutôt un mauvais présage ou l'occasion de faire un vœu d'avoir des poutres dans son portefeuille. Et en 4, on terminera avec le pétrole qui s'est fait démonter parce qu'on avait peur d'un ralentissement de la croissance et d'une baisse d'activité en Chine. Disons que le baril était une victime collatérale de l'ambiance pourrie de cette fin de séance. Pour faire simple, ça aurait pu être une bonne journée, ça l'a d'ailleurs été en Europe, mais à la fin, on a quand même pris la décision qu'il était plus raisonnable de tout vendre en attendant demain. Ou aujourd'hui. Après avoir longuement listé toutes les infos revigorantes et déprimantes de la journée, on peut largement se demander ce que l'on va faire aujourd'hui. Du point de vue des futurs, on semble s'accrocher au pinceau et ils sont légèrement en hausse. Par contre, en Asie, tout est dans le rouge parce que, je cite, « la peur de la pandémie surpasse l'enthousiasme des chiffres trimestriels ». Ce qui fera un excellent titre de série B pour être tourné par Netflix avec une star d'Hollywood qui cherche du boulot pour payer ses impôts en retard. Le pétrole est donc de retour à 71$, ensuite je vais me répéter au sujet de l'or, mais il faut bien reconnaître qu'il ne fout absolument rien et que ce truc est devenu d'un ennui absolument terrifiant. On dirait la 8e saison d'une série télé quand les scénaristes ne savent même plus comment trouver une nouvelle intrigue après avoir fait survivre le héros à 2 cancers, 3 attaques de banque et 12 d'accidents de voiture, sans oublier les soins intensifs Covid dans la saison 7. En résumé, l'or ne fout rien, tout comme le Bitcoin qui stagne à 39 000 depuis 24 heures. Dans les nouvelles du jour, il y a plein de trucs hyper importants, mais le premier qu'il faut retenir, c'est que juste au moment où l'on pensait que le gouvernement chinois était en train de se calmer, il y a 32 minutes, ils viennent de déclarer que les jeux vidéo étaient de l'opium. Bon, techniquement, quand tu regardes un ado, voire un jeune adulte qui est capable de regarder des vidéos de type qui joue à des jeux vidéo toute la journée et que quand il éteint, il joue lui-même au jeu en question, et quand tu vois qu'un joueur FIFA en ligne peut être payé comme un vrai joueur de foot qui va vraiment sur le terrain, il est vrai que l'on pourrait comprendre le gouvernement chinois. Mais ce matin, c'est Tencent et NetEase qui ne comprennent pas. Les deux titres se font défoncer depuis 10% et se retrouvent à nouveau au plus bas depuis un bon moment, ce qui nous amène à la conclusion évidente que le gouvernement chinois n'a pas fini de foutre le bordel. Excusez-moi pour le langage, mais après avoir cherché dans le dictionnaire des synonymes, je n'ai rien trouvé de mieux. Pour le reste des nouvelles du jour, on notera que Bill et Melinda Gates se sont divorcés et que leurs avocats sont hyper contents. Toujours au chapitre de « On n'a pas tous les mêmes soucis », on notera que Jeff Bezos n'est plus l'homme le plus riche du monde, et pas parce qu'il est parti brièvement dans l'espace avec une fusée qui ressemblait à un sexe masculin, ni parce qu'il est ridicule avec son chapeau de cow-boy, mais tout simplement parce qu'Amazon a perdu 7% l'autre soir. Du coup, c'est Bernard Arnault qui est champion du monde parce que le e-commerce dont les produits de luxe a cette capacité de ne jamais, jamais ralentir. On notera que pendant qu'Arnault pèse presque 200 milliards, l'Américain moyen tourne avec une fortune personnelle de $120 000 et le Français à 158 000 euros. On n'est visiblement pas vraiment du même monde. On peut aller s'acheter un sac en plastique de chez Vuitton, mais on n'est pas du même monde. Et puis, une nouvelle qui va remplir de joie les étudiants en finance. Goldman Sachs a finalement augmenté ses employés juniors à 110 000 dollars par année. La bonne nouvelle, c'est que comme ils bossent environ 160 heures par semaine, ils n'auront pas le temps de dépenser l'argent et quand ils vont se retrouver en burn-out dans 5 ans, ils auront un capital de base pour ouvrir une épicerie végane dans la banlieue riche de Philadelphie. Et côté chiffres du jour, nous aurons Alibaba, Conoco, Eli Lilly, Nicolas et Activision qui va sûrement aimer les commentaires du gouvernement chinois. Et côté chiffres économiques, ça sera le tour du Seco en Suisse et des Factory Orders aux USA. Pas une journée de folie, mais largement de quoi commenter la Chine, les jeux vidéo et le e-commerce. Manquerait plus que Fauci nous dise que le pire est devant nous au niveau du Covid. Pardon ? Comment ? Ah ! Ok, il l'a déjà dit ce week-end. Bon, bah alors, tout va bien alors. Ah oui, encore une chose. Si vous vous apercevez que je n'écris pas tous les jours, c'est que vu le volume des articles et l'enthousiasme de la lecture au mois d'août, nous avons décidé de réduire le nombre de publications pendant ce mois. On retrouvera le rythme habituel dès la rentrée. En attendant, je ne suis pas en vacances. Vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes sous Morning Bull Live et en vidéo sur YouTube sur la chaîne Swiss Côte. Mais pour ce qui est de demain, je serai là. Passez une excellente journée. Et je vous retrouve donc demain matin à la même heure et au même endroit.